Le journal Mireille Boukassa.
Sécurisation des candidats à la présidentielle, la proposition offerte par l'inspection générale de la police nationale acceptée par certains candidats et rejetée par d'autres. Il demande que le processus électoral soit d'abord élagué de toutes les irrégularités constatées. Les précisions dans ce journal. Plus de 7000 déplacés de Tchéi à Bounia depuis le début de cette semaine. C'est là une des conséquences des affrontements qui se poursuivent entre FRDC et miliciens du MRC dans la partie sud d'Irumu. La population de Kisangani peut enfin bénéficier des soins dans les hôpitaux publics. Depuis ce matin, les médecins de cette ville ont mis fin à leur mouvement de grève en attendant une réponse de Kinshasa. Bonsoir et merci d'écouter Radio Kapi. Les candidats à la présidentielle ne sont pas tous unanimes sur l'offre de leur sécurisation que propose l'inspection générale de la police. Dans un communiqué publié le 3 juillet dernier, l'inspecteur général de la police nationale a lancé un appel aux candidats pour finaliser les modalités relatives à leur sécurisation pendant la campagne électorale. Ce document faisait suite à la rencontre du 29 juin dernier entre la CEI, le SIAT, la police et les différents candidats autour de leur sécurisation. Les détails avec René Capita.
Pour certains candidats, cette offre de la police est une bonne chose dans la mesure où elle répond à la préoccupation de la sécurisation des candidats présidents de la République. C'est le cas de Roger Lumbala.
Je réagis positivement dans le sens où les demandes ont été prises en considération par l'équipe qui s'était réunie. Ce qui reste à savoir, qui compose ces éléments de la police qu'ils vont mettre tout près des candidats présidents? Est-ce que ce sont les éléments brassés ou ce sont les éléments qui ne sont pas brassés qui peuvent venir d'une milice quelconque? Sur le principe, nous sommes tout à fait d'accord, mais nous irons en discuter avec celui qui a lancé ces communiqués pour que nous puissions voir quelles sont les modalités pratiques.
Pour d'autres, par contre, cet appel de la police constitue une diversion. Selon eux, la police ne peut pas décider seule de leur sécurisation. Anatole Matusila.
C'est une mascarade des autorités dont relève la police, parce que moi j'avais une police qui était commise à ma sécurité. On m'a retiré cette police-là. Et maintenant, les autorités veulent me donner une police pour quelle mission? Je ne peux pas accepter pareille chose. Pourquoi on retire une police pour me substituer à une autre police alors que c'est la même police nationale? C'est une diversion. Ils n'ont pas envie de faire leur travail. C'est pour intimider les candidats, pour leur empêcher de descendre sur le terrain et de travailler tout simplement.
Le directeur de cabinet de l'inspecteur général de la police a précisé que les candidats doivent d'abord se présenter à l'inspection générale pour remplir certains documents avant de contacter l'unité de police intégrée. C'est cette unité qui devra fournir des éléments pour leur sécurisation.
Activité ralentie ce mercredi à Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental, à la base des tracts lancés hier soir dans certains coins de la ville. Ces documents appelaient la population à rester chez elle ce mercredi et demain jeudi. On peut également y lire une mise en garde à tout candidat qui débuterait sa campagne. Jusqu'en début d'après-midi, l'appel à la ville morte était observé dans certains quartiers de la ville. Chris Moukand.
Dès le début de l'après-midi, la circulation commençait à se normaliser dans la ville, mais les taxis évitaient tout de même certains quartiers, comme le quartier Simis, connu comme le fief de l'UDPS, et Kalalawankata, d'où est parti le mouvement de panique de ce matin. Le commerce a repris dans certains endroits de la ville, sur ses plus grandes artères. L'heure est pour le moment des interrogations sur le pourquoi de cette journée morte, du moins pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire les tracts affichés dans des endroits publics. Ces écrits anonymes invitaient les habitants de Mbujimayi à demeurer chez eux durant les journées de mercredi et jeudi et mettaient en garde tout candidat qui débuterait sa campagne. Baudric Mwamba tient une maison de bureautique. Il revient sur l'ambiance de la journée.
Nous avons ouvert aux alentours des 15 heures. Comme ici à Tchibouyi, les activités fonctionnaient quand même par rapport aux autres coins de la ville tels que Simis et puis Kalalawankata. Nous travaillons dans une bureautique. Comme on n'a pas reçu les clients dès les premières heures, c'est que du point de vue activité, on ne produit presque pas.
Si certains opérateurs économiques ont repris leurs activités, pour d'autres c'est une journée perdue. Ils espèrent désormais en celle des jeudis. La police déployée la mi-journée a été relevée, signe que ça redémarre. Mbujimayi, Chris Moukand, Radio Kapi.
À Bukavu, plus de 300 étudiants participent depuis ce mercredi matin à des journées de sensibilisation au processus électoral. Cette initiative est du Collège provincial des étudiants de l'ISDR, Institut supérieur de développement rural. Elle a pour cible 6 sites universitaires où la CEI et la division électorale de la MONUC vont échanger avec les étudiants. Le point sur place avec Astrid Mujinga.
Pour cette première journée, ce sont les étudiants de l'Université catholique de Bukavu, ICB, et ceux de l'Institut supérieur de développement rural, ISDR, qui ont été concernés. Quatre thèmes ont été développés par différents orateurs de la MONUC et de la CEI, dont les plus importants, les normes d'une campagne électorale et l'éthique d'un candidat, les différentes sortes de liberté publique, la participation de la femme aux instances de prise de décision et l'attitude des jeunes face aux manipulations politiciennes. Après la séance, réaction des étudiants.
Les étudiants ont compris leur place dans la prise de décision lors des élections et les manipulations aussi.
Premièrement, je suis tellement content de voir qu'on a songé à nous et qu'on sait que nous sommes l'élite et aussi le futur, mais aussi le présent. Nous sommes sûrs et certains que ce qu'ils ont fait comme enseignement nous met maintenant à l'abri et nous sommes sûrs que nous ne serons plus manipulés.
La matière est importante pour nous, mais le moment a été mal choisi.
Rappelons que cette initiative qui démontre de l'intérêt que des futurs cadres de l'ère des Congo portent à la gestion de la chose publique va se poursuivre dans 6 autres établissements d'enseignement supérieur de Bukavu. Depuis Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
Au Maniema, Mgr Stanislas Longonga, vicaire général du diocèse de Kindu, invite les candidats aux élections prochaines à mener une campagne apaisée. Il demande à la population de choisir librement le candidat de son choix, sans influence de qui que ce soit. Il s'entretient ici avec Jean-Serge Chindani.
Nos candidats qui sont ici pour la campagne électorale, l'unique chose que je peux leur demander, c'est d'abord d'observer le code de conduite des partis politiques et surtout de sensibiliser la population de manière à ce que cette population puisse observer aussi une certaine ligne de conduite pendant la campagne électorale. Nous ne voulons pas surtout que les politiciens qui nous viennent en campagne se lancent ici dans une campagne de diffamation, d'injures, ainsi de suite, vis-à-vis de leurs concurrents. Nous pensons que cela est déconseillé et du point de vue chrétien, ce n'est même pas charitable.
La MONUC réagit à son tour à l'expulsion de Ghislain Dupont, envoyé spécial de RFI en RDC, lors de la conférence hebdomadaire de ce mercredi. La mission onusienne dit qu'il est regrettable de priver le peuple de s'informer, surtout pendant cette période électorale. Pour le porte-parole de la MONUC, quelles que soient les raisons invoquées, l'exclusion de la presse du processus électoral n'est pas souhaitable. Kemal Saïki, porte-parole de la MONUC, au micro de Ramambay.
Le cas de Mme Dupont de RFI qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Nous sommes très préoccupés et nous aussi nous sommes déçus de cela. Il y a un très grand intérêt pour le processus qui se déroule actuellement en RDC. Et de priver les auditeurs de la possibilité de se tenir informés des événements et notamment de la campagne électorale est extrêmement regrettable. Quelles que soient les raisons qui aient été invoquées, je crois que le silence médiatique, l'exclusion des médias quant à la couverture du processus électoral n'est ni désirable ni souhaitable. Nous l'avons dit, il est essentiel que ce processus électoral soit crédible parce que de la crédibilité dépendra l'acceptation des résultats. Or, la manière primordiale, essentielle d'établir la crédibilité du processus, c'est de faire en sorte que celui-ci soit transparent et que dans ce cas-là, la liberté d'informer soit au rendez-vous.
D'après les nouveaux chiffres avancés par le Bureau des Nations Unies chargé des affaires humanitaires au Tchad, plus de 7000 déplacés sont arrivés à Bounia depuis le début de cette semaine. Ces personnes disent avoir fui les affrontements entre les FRDC et les miliciens du MRC dans la partie sud d'Irumu, à 56 km au sud de Bounia. Le chargé de l'information de Ocha à Bounia précise qu'une démarche est déjà prise pour ouvrir un site d'assistance humanitaire pour ces déplacés. Bernard Danyangui nous fait le point.
Selon le chargé d'accueil des déplacés, 990 familles, soit environ 5000 individus, sont accueillis provisoirement dans l'enceinte du lycée Tiam Tiam de Bounia. Les conditions dans lesquelles ils vivent laissent à désirer. 41 enfants de moins de 5 ans et 38 adultes souffrent de maladies différentes suite aux mauvaises conditions d'hygiène et sans aucune assistance médicale. Témoignage. Les affrontements ont commencé du côté de Songolo. Ils opposaient les miliciens et les FRDC. Nous les civils. Nous avons eu peur puisque les miliciens repoussaient les FRDC jusqu'à chez nous et nous sommes sortis. Notre village a été incendié complètement par les miliciens. À Kombokabo, toutes les maisons sont brûlées. Côté humanitaire, une démarche est déjà prise pour ouvrir un site d'assistance humanitaire à Délé, localité située à environ 100 km au sud de Bounia. Plusieurs ONG humanitaires viennent de promettre l'assistance. Une fois les déplacés seront réunis dans ce site, Idrissa Konté est le chargé de l'information à Ocha Bounia.
Le PAM va faire la distribution des vivres, l'UNICEF va faire la distribution des non-vivres et des bâches. Solidarité vont mettre l'eau et assainissement dans ce site. Donc, il y a aussi les partenaires comme la Caritas, Medea, sont prêts à intervenir donc, pour les soins médicaux.
Signalons aussi que les activités humanitaires sont suspendues momentanément dans la région de Tchéi pour des raisons sécuritaires. De Bounia, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Revenons à Kinshasa pour signaler la mort du général Sylvain Bouki, chef d'état-major des forces terrestres des FRDC. Il est décédé hier soir à Kinshasa. Information livrée à Radio Okapi par le porte-parole des FRDC, le colonel Léon Kasonga. Après plus d'un mois de grève, les médecins de Kisangani ont depuis ce matin repris effectivement le travail. Cette levée de la grève a été décidée hier à l'issue d'une réunion extraordinaire de leur syndicat. Rejoignons Godlive Omondo à Kisangani.
Les médecins de Kisangani suspendent le travail pour deux semaines en attendant une réponse favorable de Kinshasa à leurs revendications. Déjà ce mercredi matin, à l'hôpital général de Kisangani, plus d'une dizaine de médecins se sont réunis pour élaborer un nouvel horaire de travail. Quatre médecins sont programmés l'avant-midi pour les consultations et un seul depuis midi. L'équipe de garde est également mise sur pied. Juste après cette réunion de planification, le médecin se sent enquéri de l'état de malade interné en faisant un tour de chaque service. Selon le médecin directeur de l'hôpital général de Kisangani, ceci permettra de définir une nouvelle prise en charge. Cette journée n'a pas vu l'arrivée de nombreux malades ambulatoires. Une dizaine seulement ont été reçus ce matin. Le médecin directeur de l'hôpital général appelle les malades qui ont quitté l'hôpital faute d'une prise en charge adéquate à revenir pour se faire soigner. De l'hôpital général de Kisangani, Godlive Omondo pour Radio Okapi.
On reste toujours en province orientale pour signaler un problème d'anémie dû au paludisme dans la zone de santé de Banalia, à 128 km au nord de Kisangani. En moyenne, 50 décès, des enfants en majorité, sont enregistrés chaque mois dans cette zone de santé. Cette situation perdure depuis 2 ans. Selon le médecin en chef, 3 malades sur 10 seulement fréquentent les centres de santé. Les autres préfèrent aller se faire soigner dans les chambres spirituelles, érigées dans la plupart des cas à côté des centres de santé. Docteur Blaise Bolonkoto, médecin-chef de Banalia, au micro d'Anselme Massoua.
Nous avons un problème, les malades sont séquestrés dans des chambres de prière. Comme il y a une culture là-bas, bon, les gens ne croient pas au paludisme, ils croient que c'est la sorcellerie. Les malades peuvent faire 2 semaines avec le paludisme sans traitement. On est en train de faire des prières pour guérir ces malades-là. Donc, avant que les malades soient transférés à l'hôpital, les malades doivent avoir d'abord la bénédiction au niveau de ces chambres de prière. Sinon, ces médicaments-là que les infirmiers pourront donner ne feront rien. Les gens croient quand même à ça. Mais dès que les cas s'aggravent, on amène les malades à l'hôpital, même avec un taux d'hémoglobine de 1,5%.
En page internationale, 6 personnes ont été tuées et 11 blessées lundi dans l'attaque par des hommes armés d'un véhicule de la coopération allemande GTZ dans le sud du Soudan, ont déclaré mercredi des témoins. Selon la même source, 5 adolescents soudanais qui avaient pris place dans le véhicule et un assaillant ont été tués par balle dans l'embuscade qui a eu lieu lundi à environ 19 km à l'ouest de Djouba, capitale de la région autonome du sud du Soudan. Deux dirigeants des Forces nationales de libération FNL, dernière rébellion encore active au Burundi, ont été arrêtés à Bujumbura alors que les pourparlers de paix entre le gouvernement et les rebelles sont au point mort. Le commandant Ndayishimiye, chargé du renseignement et de l'instruction au sein de la rébellion, et le commandant Blandine, conseillère du chef des FNL, Agathon Rwasa, ont été arrêtés mardi dans une maison qu'ils louaient à Kiriri, un quartier de Bujumbura. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-le sur www.radiocapi.net.